Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous avons donc appris hier la disparition d'Henri Chapier. Dans un instant, on revient avec Laurent Marsic sur la carrière du présentateur et du journaliste de la mythique émission Le Divan. La suite du film au succès phénoménal, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, arrive mercredi au cinéma. Et c'est réussi, nous dira Stéphane Boutsock. Nous entendrons les acteurs Chantal Lobby et Christian Clavier au micro de Stéphane. Pascal Obispo vient lui d'entamer une nouvelle tournée, 3 mois après la sortie de son 10e album, qui porte simplement son nom. À quoi ressemble son nouveau concert? À suivre le compte-rendu de Steven Bellery, qui est allé l'applaudir à Lille il y a quelques jours. Et puis à la télévision ce soir, sur M6, Karine Lemarchand présentera les agriculteurs de la nouvelle saison, la 14e de L'Amour est dans le Pré. Isabelle Morini-Bosque nous donnera un avant-goût du casting 2019.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Henri Chapier nous a donc quitté ce week-end, on l'a appris hier, il avait 85 ans et pour beaucoup il restera le créateur d'une émission de confidence un peu particulière à la télévision, Le Divan. C'était sur France 3 dans les années 80. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Henri Chapier, c'était la confession tout en délicatesse.
Oui, avec sa voix singulière, sa façon de se tenir assis bien droit, ses fiches sur les genoux, ses costumes très larges et bien sûr son divan, un divan jaune. Cette émission, c'était son œuvre, sa création. Il me le racontait en janvier 2015.
Je pense que Divan est vraiment mon œuvre d'auteur, quoi. J'ai eu cette idée-là. Elle était singulière. À l'époque, le président Renéant de la chaîne pensait que ça n'allait jamais marcher. Et ensuite, ça a été démenti très rapidement, parce que ça marchait tout de suite. Parmi 327 émissions, je suis content d'avoir pu inviter des gens de tous les milieux, et pas uniquement du cinéma ou de la culture.
Sur son divan, plus de 300 stars se sont donc allongées. Elles s'appelaient Simone Veil, Jeanne Moreau, Helmut Newton, Mylène Farmer ou encore Serge Gainsbourg, mais lui s'était pas allongé. Il avait refusé de s'allonger en préférant rester assis.
Je n'aime pas la position.
J'aime la position couchée à deux. Voilà. Simple.
Je pense que c'est autre chose. Je pense que ça vous suggère l'inactivité seule.
C'est féminin, un divan.
Ah, pour un homme. Henri Chapier débutait toujours ses interviews par cette question.
Quel genre de garçon étiez-vous à l'âge de 7 ans ?
Obtenant parfois des confidences étonnantes, comme celle-ci. C'est Jacques Vergès, l'avocat à l'époque du nazi Klaus Barbie, qui parle.
Dans la vie privée, on dit que, comme certaines stars hollywoodiennes, lorsque vous êtes fatigué après un grand procès, vous prenez un bain très mousseux. Un peu comme les personnages de Tennessee Williams, est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Je ne vois pas du tout en quoi prendre un bain est une chose extraordinaire. J'en prends un tous les matins. Et j'avoue que c'est pour moi une grande volupté de prendre un bain, même pas chaud, mais brûlant, avec beaucoup de mousse et y rester très longtemps, parfois 3/4 d'heure.
Henri Chapier avait pris sa retraite télé en 1994 et puis en 2015, il avait transmis le flambeau du divan à Marc-Olivier Fogiel qui dès hier soir à 18h réagissait sur RTL à cette disparition.
Pour moi, Henri Chapier, que je connais depuis toujours, depuis une trentaine d'années, c'est un journaliste éclectique qui s'intéressait à tout. Évidemment, je m'attendais à son départ, mais voilà, quand ça arrive, on a le cœur qui saigne. C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends son départ, d'autant que je pense qu'il fait partie de ces générations qu'on ne remplace pas.
Henri Chapier, ce n'était pas que la télévision, c'est aussi le cinéma, critique de cinéma redoutable. Henri Chapier avait aussi créé la Maison européenne de la photographie et il avait lancé il y a quelques années le mois de la photo dans la capitale.
Merci beaucoup Laurent Marsic. On va parler cinéma maintenant. En 2014, le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu devenait le 6e plus gros succès de l'histoire du cinéma français. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
5 ans et demi et 12 millions et demi d'entrées plus tard. 5 ans et 12 millions et demi d'entrées plus tard, toute la bande est de retour dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu.
Oui, la bande, à savoir Philippe de Chauvron à la réalisation, côté casting Christian Clavier, Chantal Lobby, Harry Habitant, Mehdi Sadoun, Élodie Fontan, Frédéric Bell et les autres, autrement dit la famille Verneuil, les parents, leurs filles et leurs gendres, arabes, juifs, asiatiques et noirs. Variante de cette suite, alors que les enfants ont pour projet d'aller s'installer à l'étranger, monsieur et madame Verneuil vont tout faire pour les en dissuader et dans le même temps accueillir en leur demeure le mariage de la fille d'André Coffi. Vous savez, le beau papa ivoirien de Laure Verneuil. Sauf que ce dernier ignore que sa fille, Viviane, compte bien épouser une femme. On retrouve dans ce deuxième volet les situations et répliques politiquement incorrectes sur les sujets qui nous crispent. Le racisme, l'argent, la réussite. Réplique qui faisait le charme du premier avec sans doute plus de tendresse, notamment grâce au couple Verneuil, mari et Claude, autrement dit Chantal Lobby et Christian Clavier, parfaits pour souligner et incarner nos petits défauts.
Ouais, les Français sont des râleurs. C'est pour ça qu'on nous aime. C'est pour ça que je nous aime.
Toujours.
Mais oui, jamais satisfait. Jamais satisfait. Toujours en colère, toujours énervé, toujours tout ça, aimant bien s'amuser aussi. C'est tellement mélangé. C'est tellement tout ça, le français, que voilà, j'aime pour ça, moi.
Non, puis la comédie, c'est de jouer les défauts qu'on peut tous avoir, mais avec énormément d'empathie pour les personnages. Nous aimons beaucoup nos personnages avec leurs défauts. C'est ça qui fait qu'on ressemble peut-être à une forme d'archétype. Voilà. Je trouve c'est intelligent et bien tourné en même temps.
Oui, hein, parce que l'archétype
m'a surpris, tu vois. Là, oui, il est venu.
Et il est bien tombé.
Ouais. Merci. Une autre question ?
Bah oui, par exemple, l'idée d'une suite était-elle déjà à l'étude lors de la sortie du premier film il y a 5 ans ?
J'ai pas pensé, mais je l'avais peut-être au fond de moi en espoir, en espérant les choses. Et puis quand j'ai reçu le scénar, j'étais contente parce que. Voilà, il y avait une belle histoire. Problème, faire un 2 pour faire un 2, non. Mais fallait l'histoire, et on l'a eu.
Moi, je n'y ai pas du tout pensé, parce que j'avais le sentiment qu'on avait fait le tour avec le premier. Et puis en plus, dans la promotion, on ne pouvait pas penser qu'on irait aussi loin. Après, je me suis dit, évidemment, on va se poser la question, parce qu'il y a eu tellement de gens qui ont aimé que Philippe va se reposer la question. Alors, s'il l'avait déjà en tête, c'est parfait. Ce qui m'a décidé, c'est son scénario et l'envie... évidemment, de se retrouver à jouer ensemble à partir du moment où il y avait un scénario qui tenait la route. Voilà, moi j'ai fait ça dans ce sens-là. Mais je ne me suis pas dit, à la fin du premier, il faut absolument faire un deuxième. Non, pas du tout.
Philippe, c'est Philippe de Chauvron, c'est lui qui nous explique le point de départ de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu.
La trame, c'était en fait le fait d'entendre toute la journée que la France va mal, que c'est mieux ailleurs, l'herbe est plus verte, enfin, tout ça, tous ces trucs que les gens répètent en boucle. Voilà. Moi, à la fois, ça me fait rire, ça m'attriste, mais c'est ça les comédies aussi, c'est le mélange des deux. C'est triste que les gens disent du mal de la France, et en même temps, c'est à peu près à rire. Quoi. Et puis les Français aiment se plaindre, donc ça, c'est un sujet qui m'amusait aussi.
Alors, ce qui est aussi intéressant, Stéphane, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un film devient soudainement un pareil phénomène de société. On a la réponse pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Bah, c'est sans doute la conjonction de plusieurs facteurs, comme dirait François Langlais. Le casting, le sujet et un scénario malin, drôle, touchant. Ça, c'est mon avis. Voici celui du tandem Lobby Clavier.
Oui, parce que c'est un sujet dans l'air du temps. Ben, beaucoup de Français peuvent se reconnaître, tous les gens qui habitent ici se reconnaissent, cette France mélangée, ces gens qui s'aiment, qui n'ont pas la même religion, comment on fait pour vivre ensemble, comment on apprend à se connaître, comment on apprend à s'aimer. C'était ça le thème du premier film, c'est-à-dire nos préjugés au départ, et puis après, tiens, ben, fond, tout ça s'écroule, tout ça, ça tombe et devient juste des humains. Et c'est un peu notre pays aujourd'hui, c'est notre vie. Donc, je pense que c'est pour ça.
J'ai beaucoup de recul par rapport à ces choses-là, parce que j'ai eu la chance dans ma vie de faire certains succès, et à chaque fois, je me suis dit, oui, alors le succès est dû à ça. Puis vous vous dites, bah, le film d'après, on va mettre la même chose. Et en fait, non. Les films fonctionnent fondamentalement par rapport à une alchimie où on dit parfois une mayonnaise qui prend ou qui ne prend pas, et qui est uniquement due à la forme du film, et pas du tout au fond, pas du tout à ce qui est dit dedans, mais à la manière dont c'est dit. À la manière dont c'est joué. Et ça, c'est extraordinairement mystérieux. Et c'est pour ça que notre profession est tellement passionnante, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Donc toutes ces explications a posteriori sont vraies, tout ce que vient de dire Chantal est parfaitement juste, et en même temps, c'est pas ça qui fait le succès, je pense.
Alors, on l'a dit, Philippe de Chauvron ajoute dans ce numéro 2 le sujet du mariage gay et les réactions qu'il continue de provoquer chez certains. Explication du réalisateur.
Dans le premier, il y avait 4 mariages. Donc tous les personnages étaient mariés, sauf la petite dernière, jouée par Tatiana Rojo. Donc on s'est dit, il faut un dernier mariage, il faut que André Coffi aussi ait son mariage. Puis ça parlait aussi d'une certaine réalité maintenant. Les gens se marient, hommes-femmes, femmes et femmes, etc. Donc on voulait parler de ça, puis ça m'amusait de voir la réaction de cette famille très conservatrice africaine par rapport à ça, parce que c'est assez mal vu là-bas, en France déjà aussi, chez les gens un peu conservateurs, mais en Afrique, c'est très compliqué pour les homosexuels.
2014-2019, peut-on imaginer retrouver cette famille Verneuil d'ici quelques années ? Réponse de Philippe de Chauvron.
Je pense que je vais partir sur autre chose d'abord, mais j'ai envie de les retrouver évidemment, parce que on n'a pas fini avec eux, quoi. Ils sont, puis en plus c'est génial, il y a 13 ou 14 personnages principaux, donc il y a des milliers d'histoires possibles, donc tant qu'ils sont encore en vie tant qu'ils ont encore en vie aussi, ouais, j'espère qu'on va refaire un 3, je sais pas quand, ou il faut d'abord trouver une bonne histoire.
Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur moi. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron avec Chantal Lobby, Christian Clavier et tous les autres. Donc à découvrir après-demain, mercredi, au cinéma.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Dans quelques instants, nos audiences télévisées du week-end et puis la nouvelle tournée de Pascal Obispo.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nos audiences télévisées du week-end, Isabelle Morini-Bosque avec Médiamétrie.
Vendredi, le polar de la Deux Chérifs est sans surprise en tête des audiences avec près de 4 millions de fidèles devant NCIS sur M6, près de 3 millions. La contre-performance étant pour TF1 qui avait déprogrammé Les Touristes d'Arthur pour une rediff de vendredi, Tout est permis. La chaîne se refait samedi avec un Qui veut gagner des millions faisant jeu égal avec le polar de la 3, Le Pont du Diable. 4 800 000 téléspectateurs mais plus de femmes et de jeunes sur la une. La déception étant là pour Destination Eurovision qui attire moins de 2 200 000 personnes sur la 2. Quant ailleurs, c'est sans surprise White House Down, film qui est en tête sur la une, 5 50 000 téléspectateurs et Capital est nettement au-dessus de sa moyenne avec près de 3 millions de téléspectateurs et 13% du public sur la 6. Dernier chiffre attendu, l'audience évidemment de Balance ton poste avec Marlène Schiappa sur C8 avec 1 100 000 téléspectateurs de 22h10 à 23h15 et quasiment 800 000 ensuite. C'est un succès, j'en ai fini.
La musique, 3 mois après la sortie de son nouvel album, Pascal Obispo a donné le coup d'envoi de sa nouvelle tournée. Bonjour Steven Mellery.
Bonjour à tous.
Vous étiez la semaine dernière à l'aéronef de Lille pour applaudir le chanteur.
Oui, qui débarque sur scène, basse à la main, l'instrument de sa jeunesse, de ses débuts rennais. Il entame la soirée avec Je rentre, extrait de son dernier album, puis enchaîne avec ce titre de 1996. Au vert teinté, portait un t-shirt noir avec une couronne signée Basquiat, entouré de 5 musiciens, 3 guitares, clavier, batterie, les arrangements, son pop, l'énergie rock et l'ambiance électrique. Un écran géant se transforme judicieusement en mur de LED pendant 2h40. Le chanteur va s'efforcer de faire converger toutes ses influences. Il rend ainsi hommage à McCartney et Lennon avec le titre A Fourteen Road, puis à Woolsey et Souchon, héros de cette chanson. Entend de la flûte traversière sur Où et avec qui tu m'aimes, de la trompette sur Assassine, du saxophone sur Le Drapeau. Mais c'est la basse de Pascal qui donne le la, un instrument avec lequel il renoue après plusieurs décennies où il se mettait plus volontiers au piano.
Là, j'avais envie de faire partie de la structure du groupe. Donc c'est assez différent dans l'approche musicale quand on est bassiste de son propre groupe. On impose en fait une forme d'énergie particulière et c'est plutôt agréable de pouvoir diriger comme ça plutôt que de donner un peu le tempo. C'est un côté un peu chanteur de variété avec le groupe derrière et ça c'est vrai que j'avais envie de revenir à finalement ce que je suis, simplement un simple musicien qui a commencé sa vie dans des groupes de rock et là j'avais vraiment envie de revenir à la pop et à l'énergie rock en fait. Je suis pas un chanteur de rock, mais c'est vrai que ma musique a des influences comme ça. Chanter et jouer de la basse en même temps, c'est assez particulier d'abord. Je fais 1, 2, 3, des petits pas, mais notre rythmique est assez solide. Et c'est étonnant de reprendre l'instrument comme ça et d'être sur sa navette, quoi.
Pascal Obispo a-t-il aussi offert quelques moments plus calmes, Steven ?
Oui, même si le show est résolument énergique, il y a quelques parenthèses de douceur. Exemple avec son tube Lucie, qu'il chante au piano Wurlitzer, assis près d'une jeune fille du public prénommée Lucie.
Lucie, Lucie, t'arrêtes pas, on ne vit qu'une vie à la fois. Appelle le temps de savoir qu'il est déjà trop tard, mais... à vous. c'est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour.
Tout ce qu'on entend, c'est du live. C'était à Lille, Pascal Obispo, très en place vocalement. N'en fait pas des tonnes. Limite ses décrochages en voix de tête au strict minimum. Ce qui n'empêche pas l'émotion de gagner le public quand il revisite Rentrer chez soi, composé en 2002 pour Morane.
De que l'on revienne et d'où que l'on soit, c'est bon de rentrer chez soi. Le chemin de l'école et les récrés, c'est pas si loin. Pas si loin les devoirs sur la vieille toile cirée. Ça me revient. J'imaginais pas qu'un jour ce serait si bon de rentrer à la maison.
Pascal Obispo dédie un morceau à sa femme, puis au milieu de sa chanson 1980, mélange Sweet Dreams de Rhythmix avec Relax de Frankie Goes to Hollywood, malin. Les tubes s'enchaînent, sa raison d'être écrit pour le Sidaction, tombé pour elle à la guitare sèche, plus que tout au monde absent des concerts depuis près de 20 ans, et en fin de show, autre hommage. Feu offert à Johnny avant son tout premier Stade de France. Point final d'un tour de chant sans temps mort, probablement la tournée la plus animale et brute d'Obispo. Il est en tournée partout en France, vendredi à Lyon, les 12 et 13 février, Salle Pleyel à Paris, les festivals cet été et les Zéniths dès le 8 octobre. Je vous conseille de passer par le stand de merchandising pour une fois où vous trouverez une surprise.
Et là en fait je leur ai préparé un disque d'inédit, c'est-à-dire que j'ai fabriqué un vinyle qui n'existe pas dans le commerce avec 10 reprises de chansons françaises rock enregistrées en live dans mon studio. Éteint la lumière, soda, les mots bleus, dyslexique, déjeuner en paix, c'est comme ça, la mauvaise réputation. J'en ai enregistré une quarantaine. Donc au fait là il y a une dizaine et peut-être qu'il y en aura d'autres qui sortiront pendant la tournée, oui.
Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix.
Voilà une idée maligne,
n'est-ce pas?
Un vinyle inédit en vente seulement sur ses concerts, faut aller le voir.
Ce compte-rendu était signé Steven Bellery. Merci beaucoup Steven. Dans quelques instants, on termine notre page télévisée avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Nos programmes télévisés de ce soir, Isabelle. Alors, on signale la diffusion des parapluies de Cherbourg sur Arte en hommage à Michel Legrand. On note aussi le retour de la prof déjantée Sam sur TF1, mais surtout le démarrage sur M6 de la 14e saison de L'Amour est dans le Pré, présenté par Karine Lemarchand. Quelque chose me dit que vous allez d'abord nous rappeler le bilan.
Bah tiens, 74 couples constitués, 19 mariages et 52 bébés depuis peu. Qui dit mieux? Alors, on a le droit de détester. Moi, je comprends très bien ça. Mais pas celui d'affirmer que ce programme ne sert à rien au vu du bilan. Alors, certains trouvent également que Karine Le Marchand bat la campagne comme un défilé sur un podium entre Book et Pressbook. On peut le dire, oui, mais elle a néanmoins le comportement idéal, je vous jure, pour décontracter ces très grands timides, comme Laurent, immensément gentil, même s'il est logique d'être doux comme un agneau quand on s'occupe de brebis.
Ah, les petites crottes, ça faisait longtemps. Ça, c'est les brebis.
Allez!
Elles ont pas faim, non?
Ben non, elles sont pas décidées. Et là, je leur donne de l'avoine pour après leur faire la lutte.
La lutte?
Ben, qu'elles puissent être remplies par le bélier pour avoir des petits agneaux.
Tu veux dire...
Oui, voilà.
Tu dis ça, la lutte?
Oui. Ben, on appelle ça la lutte.
Ah oui?
Elles sont en chaleur avec l'avoine.
Mais qu'est-ce que tu me racontes, Laurent? Tu manges de l'avoine et t'es excité quand t'es une brebis?
Oui.
Mais alors, dans les cornflakes, t'as tes flocons d'avoine? J'arrête ça tout de suite.
Voilà. Et là, effectivement,
qu'elle il n'arrête
tout de
pas.
Suite plus. Voilà. Non, je ne sais pas si elle va arrêter.
Mais comme que vous vous dise. Ah, quelles sont les nouveautés de cette saison?
Eh ben écoutez,
excusez-moi, j'étais parti dans mes pensées.
Les grands esprits se rencontrent. Moi aussi, j'ai posé la question à Karine Le Marchand.
Eh ben, il y en a pas beaucoup. Justement, on s'est dit, c'est la 14e saison. On a vraiment réfléchi. On a fait une étude pour savoir ce que les téléspectateurs aimaient dans L'Amour et dans le Pré. Mais c'est pas les innovations. Pour eux, l'agriculteur, c'est les vaches. Et c'est surtout l'amour, en fait, qu'ils veulent regarder. C'est cette remise en question, c'est ce moment-là où ils vont rencontrer des prétendantes et que l'amour va naître. En fait, c'est une émission où les Français veulent pas spécialement s'évader dans de nouvelles formes d'agriculture. C'est pas ça qu'ils cherchent. Et la ferme, la boue, les vaches. Voilà.
C'est exactement ce qu'ils veulent. Alors moi, j'ai déjà mes chouchous dans cette salle. Première salle de 7 portraits. Il y en aura 7 autres lundi prochain. Parmi lesquels, Sophie, un cas dramatique, revenu à la Terre après un AVC à 26 ans. La suite avec Karine.
Cette année, il y a beaucoup d'hommes qui ont très peu d'expérience sexuelle. On n'est pas très jeunes, de 33 à 60 ans. On n'a pas les beaux gosses habituels. On est sur des agriculteurs qui souffrent vraiment de solitude et qui se revendiquent comme étant des paysans. Évidemment, parmi ces paysans, on a des personnalités fortes avec certains qui ont des forts accents, dont un, on l'a prévenu, hein, il a compris, qu'on doit sous-titrer. Parce que vraiment, il parle hyper vite, avec un accent. Ça va, j'arrive à le comprendre. Il est drôle, sympathique. Tout le monde va l'adorer. Après, on a des gens très touchants qui font monter les larmes. Il y a de la gentillesse pure, mais vraiment. À tel point que je me dis, il faut vraiment qu'on soit vigilant pour ne pas qu'ils tombent sur des gens mauvais. J'ai très peur qu'ils tombent sur des gens un peu tordus, parce qu'ils ne sauront pas se défendre. Il y a des gens vraiment bons. Voilà.
J'ai eu exactement le même sentiment en regardant cette première partie que j'ai adorée. Alors, vous allez comprendre tout de suite le monsieur qu'on est obligé de sous-titrer. Oui. Il est formidable. Il s'agit de Didier Quinca Aveyronnais.
C'est mieux avec des conneries. Elle me dit, mais t'as pas les blagues avec la noix, tu vois, si jamais. Mais si, il dit, une fois dans le tracteur, tu as le boss, il te raconte des blagues.
Moi, cette phrase, par exemple, je n'ai pas comprise.
Voilà.
Eh bien, nous non plus. Donc, regardez ce soir sur M6 pour mieux comprendre. Et on termine par un coup de gueule de Karine, que je partage. Elle est exaspérée que des curieux aillent bivouaquer sur les terres des candidats. Par les réseaux sociaux, ils se débrouillent pour avoir l'adresse et le téléphone.
Non.
Et ils vont sur les terres des candidats dès la diffusion des portraits.
Ben, j'ai envie de ne pas dire merci à certains journalistes locaux qui donnent leur adresse et leur téléphone directement dans la presse. C'est hallucinant. Respectez, s'il vous plaît, la tranquillité de ces gens qui ne cherchent pas le star system et qui n'ont pas du tout envie que des prétendants et prétendantes aillent directement chez eux. Parce qu'ils savent aussi que nous, on demande les casiers judiciaires, on téléphone, on fait quand même une présélection. Ça les rassure. Et donc, ils veulent suivre le cursus. Donc, ne court-circuitez pas le système, ça ne marchera pas. C'est sûr que quand on a jamais une relation amoureuse et qu'on a une jolie plante qui vient directement chez soi et qui nous fait la danse des sept voiles. L'autre en face, il est très troublé et il croit peut-être que c'est la femme de sa vie. Mais en même temps, il a embarqué dans cette histoire qu'est L'Amour est dans le Pré. Donc, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Bizarrement, pour une émission comme ça, le vrai danger, c'est de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà.
Elle est parfaitement lucide.
Oui, elle est parfaitement lucide, elle veille au grain, si j'ose dire, dans cette émission. Et elle est, honnêtement, elle est de plus en plus indispensable. Donc, ce soir, sur M6, démarrage de la 14e saison, 7 premiers portraits, vous serez surpris. On pleure beaucoup, on rit aussi.
Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Dans quelques instants, on se sépare, mais on accueille Julien Courbet.
Et dans les grosses têtes aussi, cet après-midi, oui. Karine Le Marchand avec Laurent Ruquier à 16h sur RTL.
Merci, Caroline. Bon, on va pas terminer ce laissez-vous tenter sans écouter la musique de notre Michel, bien entendu. Et vous me disiez il y a quelques instants qu'il y a des hommages internationaux très importants après la disparition de Michel Legrand.
Tout le week-end a commencé par Céline Dion en français. Je suis profondément peiné d'apprendre le décès de Michel Legrand, un homme exceptionnel, un brillant compositeur, un des plus grands de notre époque. Il vivra à travers sa musique pour toujours. Barbara Streisand s'est fendue également d'un tweet. J'ai eu le plaisir de travailler au tout début avec Michel Legrand en 1966 quand il avait arrangé mon album français Je m'appelle Barbara et on a travaillé ensemble de très nombreuses fois. Il a écrit la musique de Yentl qui a eu un Oscar sous le contrôle de Stéphane. Sa musique absolument magnifique vivra pour toujours. J'ai des souvenirs qui sont des trésors, dit-elle. Quincy Jones a également fait un tweet. Ils avaient débuté ensemble leur carrière américaine quand Michel Legrand était arrivé aux États-Unis. Reste en paix, mon ami et mon frère Michel Legrand. Tu seras l'un des meilleurs compositeurs de musique et auteurs pour le reste de l'éternité. Tu me manqueras pour toujours, mon cher ami, dit Quincy Jones.
On écoute quelques mesures de Barbara Streisand.
Stomp beside a little flower store.
américaine des Moulins de mon cœur. Barbara Streisand, merci beaucoup à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. On va tout de suite retrouver Julien Courbet.
Oh, c'est magnifique hein, ce qu'on écoute. Presque aussi beau que l'interview de ce matin de Luc Chatel, où j'ai adoré.
Non, c'est vrai. On refait une cassette.
Non, mais j'ai adoré parce que j'ai pris plein de notes et je me suis même permis de faire un résumé de tout ce qui a été dit. Et c'était très
une
intéressant.
Synthèse.
Écoutez.
Voilà. Moi, je n'ai pas connaissance du fond du dossier. Je n'ai pas accès à ces informations-là. Parce que je ne suis pas membre de l'équipe dirigeante de Renault, je ne suis pas membre du gouvernement et je ne suis pas actionnaire de Renault.
C'est qui en fait ? Parce que c'est la question qu'on s'est posée. On s'est dit peut-être même que ça pourrait faire un tube pour cet été, qui sait ?
Mais qui es-tu ? Je ne suis pas membre de l'équipe dirigeante de Renault.
Mais qui es-tu ?
Je ne suis pas membre du gouvernement.
Mais
qui es-tu ? Je ne suis pas actionnaire de Renault.
C'est pas mal ça. Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, moi ça ne me déplaît pas.
En plus, ça vous permet de faire revenir demain pour savoir enfin qui il est. Je vous souhaite une belle journée.
Il préside la plateforme de l'automobile.
Ah bah voilà ! Vous l'aviez dit d'ailleurs en début d'interview. Je vous souhaite une bonne
émission,
journée, une bonne
vous
semaine.
Écoute avec plaisir.